un podcast France Culture.
Pour retrouver le fil et identifier l'origine du sida, on a utilisé une méthode qui est de plus en plus utilisée maintenant, mais qui était presque balbutiante à l'époque, qui consiste à analyser le matériel génétique du virus ou d'une bactérie pour essayer de remonter dans le temps.
Troisième épisode, comment le sida a émergé.
Imaginons que l'on ait déjà un certain nombre de virus isolés, on regarde leur matériel génétique, on regarde leurs différences, on essaye d'imaginer quelle était la racine commune, combien de mutations ont eu lieu depuis cette racine commune, et puis ensuite, on va chercher où peut-on trouver ce virus ancestral qui est ensuite passé chez l'homme et qui a commencé à diverger. En prenant en compte ces aspects-là, ces aspects de ce qu'on appelle l'horloge moléculaire et les variations qui s'accumulent au cours du temps, les mutations, on peut comme ça établir à peu près à quel moment s'est fait le passage à l'homme. Pour ce qui est du virus du sida, on va s'apercevoir très vite qu'il n'y a pas qu'un seul virus du sida. J'ai parlé de HIV1 puis de HIV2. Mais en fait, il y a plusieurs HIV1. Il y en a quatre. HIV1 qu'on va appeler M, M comme main, major, le principal. HIV1O, c'était l'autre outlier. Et puis, ils en ont trouvé encore un autre. Ah, on peut pas l'appeler M, ils l'ont appelé N, c'est ni O, ni M. Et on est arrivé en quatrième. Voilà, ils avaient M, N, O, ils se sont dit, tiens, on va mettre P. Il n'y a plus de raison. Donc, on a HIV1, M, N, O, P. Pour HIV2, ils ont compris que c'était pas très malin de procéder comme ça. Ils ont commencé par A, puis B, puis C, puis D. C'est toujours compliqué parce que ils ont appelé un nouveau virus E. Ils se sont aperçus que finalement, ils l'avaient déjà. Donc, finalement, ils ont éliminé le E, le F, le G. Comme ça, il y en a eu 9. 9 HIV2, 4 HIV1. Autant de virus de sida qui sont passés des singes à l'homme. HIV2, on sait maintenant que ce sont plutôt des singes du type mangabé, singe vert, qui vivaient en Afrique de l'Ouest. HIV1, c'est les grands singes, les chimpanzés, les gorilles, en Afrique centrale. Et en fait, en étudiant les virus portés par ces singes, on sait maintenant que ce sont des groupes de singes qui vivent plutôt dans le sud-est du Cameroun, qui sont à l'origine des quatre passages HIV1, M, N, O et P. Donc on localise l'endroit à quelques centaines de kilomètres finalement près. On est dans la forêt africaine autour de 1920 et l'hôte à partir duquel l'homme s'est contaminé qui est le chimpanzé. Pour d'autres HIV1, ce sera le gorille, mais pour le HIV1, M, c'est le chimpanzé. Donc des choses extrêmement précises. Alors si j'insiste sur cette précision, c'est pour dire que on a vraiment les moyens, quand on veut chercher, de reconstituer toute la chaîne jusqu'au réservoir animal. On va même un peu plus loin. Ces virus de gorille, on sait qu'ils les ont attrapés des chimpanzés, dans des explications de texte qu'ils ont eues entre gorille et chimpanzé au sein de la forêt, mais ceci ne nous regarde pas. Et les chimpanzés sont éventuellement carnivores, pas les gorilles, mais les chimpanzés, oui. Et eux peuvent chasser des singes plus petits. Et probablement, la contamination s'est faite comme ça. Et on sait maintenant à peu près comment est constitué ce HIV, qui n'a plus un HIV puisque c'est le chimpanzé, donc c'est un SIV pour singe, qu'on va retrouver donc chez les chimpanzés. On sait que c'est une recombinaison de plusieurs virus qu'on va trouver chez les singes. On peut reconstituer sur des centaines d'années, jusqu'à 1920, la constitution de ce réservoir de virus chez le chimpanzé, et puis en 1920, le passage chez l'homme.
Des chercheurs français, britanniques et américains ont identifié au Cameroun le groupe de singes considéré comme réservoir naturel du virus du sida. Ces chimpanzés porteurs sains du virus seraient à l'origine de la pandémie mondiale qui a déjà fait 26 millions de morts et infecte aujourd'hui 40 millions de personnes.
Ce travail sur la recherche de virus chez les chimpanzés, chez les gorilles, chez les singes. L'étude des génomes qu'on trouve chez l'homme est faite par, on va dire, la communauté scientifique en général. Beaucoup de chercheurs participent en apportant une petite pierre à l'édifice et petit à petit, on obtient un grand nombre de génomes, un grand nombre d'analyses et on finit par reconstituer cette histoire qui va des singes jusqu'aux chimpanzés, jusqu'à l'homme et qui nous amène finalement au Cameroun en 1920. Le passage du singe à l'homme se fait de manière toute bête, probablement par la chasse. Des personnes qui vivent dans la forêt braconnent. À l'époque, en plus, la protection des chimpanzés n'était pas la même que celle qui existe maintenant, aux chimpanzés et gorilles. Et c'est au cours de braconnage ou en dépeçant une bête. Enfin, une plaie en chassant, c'est tout à fait banal. Il faut un contact avec le sang. Et on imagine tout à fait que ça puisse arriver dans ce contexte-là. Va se passer une période, 1920-1981, on a 60 ans, pendant lesquels, finalement, le virus va devoir s'adapter. Mais si le virus n'est pas adapté, alors comment se fait-il qu'il se transmette ? Ce qu'on pense maintenant, c'est que effectivement, il lui fallait passer assez souvent d'homme à homme pour petit à petit modifier ses protéines, modifier son code génétique de manière à être adapté. Il y a plein d'interactions moléculaires dans une infection virale. Non seulement il faut rentrer dans la cellule, mais il faut survivre dans la cellule. Une partie doit passer dans le noyau de la cellule parce que c'est un rétrovirus. Tout ça est très complexe et à chaque fois, il y a des défenses qui interviennent et il faut échapper à ces défenses. Cet ensemble-là nécessite de s'adapter. En fait, l'histoire du sida va coïncider avec le développement de deux villes qui sont l'une en face de l'autre, le long du fleuve Congo, qui sont Brazzaville et ce qui deviendra Kinshasa, mais qui s'appelle à ce moment-là Léopoldville. Léopoldville en l'honneur du roi Léopold, qui pendant un temps était propriétaire de l'actuelle République démocratique du Congo. Propriété privée.
Voyage royal au Congo. Le roi reçoit maints témoignages de sympathie individuelle et sa voiture se trouve fréquemment bloquée par la foule indigène. Au timide hommage de fleurs des enfants blancs, répond celui des fillettes noires que le roi reçoit avec la même gentillesse. Quelle que soit son issue, la mission royale aura considérablement élargi les sympathies congolaises pour la Belgique.
Ce sont deux petites villes, Brazzaville quasiment un village, c'est les Français qui le tiennent. Léopoldville, ce sont les Belges, une ville un peu plus grande. Et elles sont situées à la fin de la très grande portion du fleuve Congo qui est navigable. Les bateaux peuvent naviguer. Donc toutes les richesses exploitées dans la grande forêt africaine vont passer par là. Mais en aval de Kinshasa actuellement, et donc de Léopoldville, il y a des rapides et on ne peut plus naviguer. Et donc les Belges ont construit une ligne de chemin de fer qui va relier Léopoldville à la côte, actuellement Kinshasa à Matadi. Les Français donc vont faire pareil et vont relier Brazzaville à la côte eux aussi, avec une nécessité de faire venir énormément d'ouvriers. Et ces deux villes, Léopoldville et Brazzaville, vont être des camps de travail en quelque sorte, où pour ce qui est de Léopoldville, les familles ne sont pas admises à venir. Donc ce sont les hommes qui viennent pour travailler, et comme il y a des hommes pour travailler, certaines femmes arrivent pour faire le métier de péripatéticienne, plus vieux métier du monde. Et on a donc une société organisée de manière tout à fait particulière, énormément d'hommes jeunes, travaillant, et finalement de beaucoup de personnes qui font le commerce du sexe, le commerce de leur corps. Maintenant, on a compris que ce qui a facilité ce passage d'homme à homme assez répété et en évitant un certain nombre de défenses, ce sont les usages qui étaient faits de matériel injectable stérilisables officiellement, mais mal stérilisés dans des injections répétées.
Ce territoire de millions d'habitants était dévasté par un terrible fléau, la maladie du sommeil. Le Tam-Tam rassemble les indigènes pour l'équipe de traitement. Le médecin examine tous les cas de maladie et se sert de peinture blanche pour marquer sur le torse même du malade son diagnostic. Le premier traitement est de suite appliqué par les infirmiers, piqûre intraveineuse faite en brousse. Les résultats, après 6 piqûres, déjà forte amélioration. 8 et 9 piqûres, la guérison. Quelle est l'œuvre accomplie par la mission ?
À partir de 1920 et dans la première partie du XXe siècle, sont menées en Afrique des campagnes de santé publique contre un certain nombre de maladies, et en particulier la plus emblématique est la maladie du sommeil, une maladie transmise par des mouches, qui s'appelle les mouches tsetse. Et les patients, en fait, vont développer une maladie chronique qui petit à petit les amène dans un coma, d'où le nom maladie du sommeil, et ils décèdent de cette maladie. Le traitement à l'époque est basé sur l'arsenic, ça a duré très longtemps. Et ce traitement donc se donne de manière injectable, il n'est pas très bien supporté, donc on essaye de donner les doses minimales, mais on est obligé de répéter ce traitement pour, en quelque sorte, arrêter la transmission de la maladie du sommeil. Sauf que, étant fait avec des aiguilles et des seringues réutilisables, et à des cadences extrêmement rapides, les gens sont alignés et sont traités à la chaîne, ça offre au virus du sida l'occasion de passer d'une personne à l'autre très rapidement. Ça lui permet d'éviter un certain nombre de défenses et donc il passe du sang d'une personne au sang d'une autre personne sans passer par les défenses de la peau, des muqueuses, etc. Et ça permet une transmission accélérée et une adaptation accélérée du virus à l'homme. Tout ça faisait que finalement les populations africaines étaient assez volontiers soumises à des injections répétées et des injections qui étaient faites sans prendre de précautions pour éviter la transmission de personne à personne. C'est là que les deux facteurs de transmission se mettent bien en place, par voie injectable, parce que ça fait venir beaucoup de monde de la forêt, beaucoup de gens qui ont des sérologies syphilis positives, même faussement positives, beaucoup d'injections, et puis une transmission par voie sexuelle qui se met en place et qui devient de plus en plus efficace. Et quand arrive l'indépendance en 1960,
la République du Congo a été proclamée et notre cher pays est maintenant entre les mains de ses propres enfants.
La situation économique s'écroule, la prostitution devient une prostitution encore plus dangereuse, en quelque sorte, parce qu'il y a plus de rapports sexuels pour gagner sa vie pour les femmes. Et on va avoir là une véritable explosion du sida à Kinshasa dans les années 60. Ce que nous enseigne cette histoire, c'est qu'un virus, pour s'adapter à l'homme, va avoir besoin de voies de propagation. Ces voies de propagation, elles ne sont pas constantes dans l'espace et dans le temps. Elles peuvent avoir des liens historiques extrêmement forts. Par exemple, ces campagnes de lutte contre la maladie du sommeil ou d'autres maladies qu'on a pu avoir, un autre virus qui est le virus de l'hépatite C, par exemple, s'est propagé de manière extrêmement forte en Égypte dans des campagnes de lutte contre une autre maladie parasitaire qui s'appelle la bilharziose. Donc on a à un moment donné, à un endroit donné, une voie de propagation idéale. Un des virus du sida, HIV1M, en a profité à plein et a pu devenir pandémique grâce à la capacité que ça lui a donnée à s'adapter à l'homme et à passer d'une transmission par voie intraveineuse ou intramusculaire, mais en tout cas des injections répétées, petit à petit, il a pu s'adapter pour faire une transmission sexuelle efficace. Et on voit bien que cette fenêtre peut se refermer et on en parlera dans un prochain épisode à propos du petit frère, le HIV2, par exemple.
Enraciné autour de Kinshasa pendant 60 ans, le sida est ensuite devenu une pandémie mondiale en seulement 20 ans. Entre l'Afrique coloniale des années 60 et les États-Unis des années 80, un maillon essentiel de cette propagation est à chercher du côté d'Haïti.
Un podcast France Culture à écouter sur franceculture.fr et sur l'appli Radio France.